Et nous allons revenir, après quelques semaines, à notre série sur le combat spirituel. Et nous sommes en train de parler de l'armure, la seule pièce ou partie de l'armure qui est offensive. Tout le reste, c'est pour la défense. Et la défense est aussi important, hein, plus important que tout, parce que si nous on est attaqué, on ne peut plus rien faire par la suite. Mais quand on veut partir à l'attaque, il y a vraiment une seule arme qui nous est donnée. Ce n'est pas une arme de chair, c'est vraiment une arme spirituelle. Parfois, les gens se demandent qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Quelque chose de très important à garder à l'esprit, c'est que le combat spirituel se sert d'armes spirituelles. On peut essayer de faire un combat spirituel avec des armes de chair. Souvent, d'ailleurs, on est tenté de le faire. Souvent, on tente de le faire même. Mais on doit se souvenir qu'une bataille spirituelle n'est pas contre la chair et le sang, et donc on ne peut pas utiliser les armes de la chair et le sang pour la combattre. Et on ne peut pas faire la guerre comme font le reste de la société, comme font les non-croyants. Ils ont un souci, ils ont un problème, ils vont attaquer le problème ou ils vont attaquer la personne. Et ils vont utiliser les moyens qu'ils ont à leur disposition. Mais le chrétien, il sait que ce n'est pas seulement important de s'engager dans la bonne guerre et être un soldat du Christ, mais c'est important d'utiliser les bonnes armes. Et la seule arme qui nous est donnée comme pour faire de l'attaque, c'est quoi? C'est l'épée de l'Esprit qui est là. La parole de Dieu. Voilà, donc on le voit ici, hein, Éphésiens chapitre 6. Ça commence au verset 10, mais je vais lire à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous avons vu la dernière fois que quand ça parle de la vérité pour ceinture, ça veut dire que la ceinture est la vérité, n'est-ce pas? Donc on prend la vérité en fait. On prend la vérité. Et puis quand ça dit la cuirasse de la justice, eh bien, c'est prendre la justice comme cuirasse. Quand ça dit mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, ben, on prend en fait l'évangile de paix. Quand ça dit prenez le bouclier de la foi, eh bien, ça veut dire qu'on prend la foi comme bouclier. Et quand ça dit, donc, prenez, prenez le casque du salut, c'est on prend le salut, hein, pour casque. Donc quand ça dit, prenez l'épée de l'esprit, ça veut dire qu'on prend quoi? Oui, mais juste ces deux mots. Prenez l'épée de l'esprit, ça veut dire qu'on prend? Oui, oui, la parole de Dieu, ça vient, mais juste pour garder... La même pensée, ok? Si je prends la vérité pour ceinture, c'est-à-dire que je prends la vérité, ok? Si je prends le casque du salut, c'est-à-dire que je prends le salut et je l'utilise comme un casque. Donc quand je prends l'épée de l'esprit, ça veut dire que je prends, voilà, l'esprit et je m'en sers comme une épée. On prend l'esprit dans ce sens. Comme les autres. L'esprit nous est donné comme une arme. L'esprit est bien plus que cela, hein? Mais ici, l'esprit nous est donné comme une arme dans la guerre spirituelle. Donc on prend la vérité, on prend la justice, on va prendre la foi, on va prendre le salut, on va prendre l'évangile de paix, et on va prendre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on va l'utiliser comme une épée. Mais prendre le Saint-Esprit et l'utiliser comme l'épée, c'est en fait prendre la parole de Dieu. Et ce qu'on voit ici, c'est que le Saint-Esprit et la Sainte Parole sont inséparables. Inséparables. Et je ne vais pas refaire l'exercice qu'on a fait la dernière fois, mais je vais vous rappeler, parce que je trouve que c'est très important. Éphésiens 5 nous dit, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et puis ça dit qu'on va s'entretenir par des psaumes. Et puis cela va se démontrer dans les relations mari-femme, enfant-parent, serviteur-maître. Okay? Et puis quand on passe à Colossiens, on voit la même chose. On s'entretient par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et tout cela, le verset juste après, mari-femme, ça se voit dans la relation mari-femme, ça se voit dans la relation parent-enfant, ça se voit dans la relation esclave-maître. Mais au lieu de dire « soyez remplis de l'esprit », Colossiens nous dit quoi ? Que là, que la parole de Christ habite pleinement, richement en vous. Donc, en Éphésiens, c'est être rempli de l'esprit, tout cela découle. Et en Colossiens, la même chose qui découle, et au lieu d'être attaché comme source à l'esprit, c'est attaché à la parole de Christ comme la source. Qu'est-ce que ça nous dit ? Encore que ces choses sont inséparables. L'esprit et la parole. Et dans ce texte ici, c'est encore plus proche. L'épée qu'est l'esprit. L'esprit est un épée et ça, c'est sa parole. Parole. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Hein, la parole est comme une extension de quelqu'un. On a parlé de cela avant, on a dit, hein, je ne peux pas dire, moi j'ai fait une promesse à Laurent, disant, mais c'était pas moi, c'était juste ma parole. Non, ta parole, c'est toi, il va me dire. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Que le ciel a été créé par quoi ? Voilà, par la parole même. Et la parole de Dieu, elle est puissante, elle est plus tranchante que... Voilà, une épée à deux tranchants. Et ça, c'est la parole de l'esprit. Donc, on ne peut pas séparer la parole de Dieu ou la parole de son esprit. C'est impossible. Et nous allons revenir là-dessus parce qu'il y a deux dangers. Deux dangers. Un danger, et les deux, ça implique un divorce. Il y a un danger, et parfois on peut faire les deux en fait. On peut prendre la parole, la Bible, et la divorcer de l'esprit. C'est-à-dire on peut se lever le matin et on lit la Bible juste comme un document. Ça peut être intéressant, intriguant, on peut même aimer étudier, on peut trouver de belles choses, mais ça demeure un peu comme le code de la route, ou comme, je sais pas, un autre livre scientifique. Et on n'a pas l'esprit que, un autre esprit, hein, que c'est Dieu qui nous parle dans sa parole. Et on peut, même dans le culte, on pourrait parler de la Bible et oublier le Dieu de la Bible. Et de l'autre côté, on peut divorcer la parole de l'esprit et penser que l'esprit va nous diriger, l'Esprit va nous révéler les choses, l'Esprit va nous embarquer dans certaines directions, et tout cela on se pense même spirituel, et on ne lit même pas la Bible. Et ce qu'on lit, parfois on se sert de versets même de la Bible, mais on les prend à travers, on les prend hors du contexte, et on essaie en fait d'être dirigé par l'Esprit, mais on ne veut pas la Bible. Or, être dirigé par l'Esprit, c'est être rempli de la parole de Christ. Donc nous, on veut toujours rapprocher ces deux choses qui sont en fait inséparables. L'Esprit de Dieu et sa parole. Et pour ce soir, parce que ce n'est qu'une méditation, je veux réfléchir à comment mieux manier cette épée. Parce qu'une épée, c'est quand même fait pour être utilisée. Quelque part, même dans l'image, Dieu veut qu'on prenne la parole et on s'en sert. On utilise. Et la Bible elle-même va nous dire, c'est par la bouche de Pierre, mais c'est l'Esprit qui parle, qu'il y a des gens qui prennent les Écritures et ils la tordent. Et quand ils la tordent, c'est à leur propre quoi ? Destruction. Non, quand ils la tordent, c'est à leur propre destruction. Hein. C'est comme si on prend l'épée et on le ramène vers nous. Donc il faut savoir bien manier cette épée. Et un petit détail qui est intéressant, vous devez garder à l'esprit, c'est que ce mot pour épée est un mot très spécifique. À l'époque où c'était vraiment l'arme de guerre, il y avait de mots différents. Toutes les épées n'étaient pas pareilles. Il y avait des épées qui étaient longues et ils ont un nom en grec. Mais le mot ici, utilisé ici, c'est rhéma. Et en fait, c'était pour une petite épée, jamais très longue, et pour poignarder en fait, et c'était fabriqué pour des combats vraiment de main à main. D'accord. Donc si on va dans la guerre, on a la grosse épée, mais si on arrive et on a tous les deux l'autre par les cheveux, la longue épée ne peut plus marcher. En fait, c'est trop lourd. Et donc, il nous faut aussi toute petite. Et c'est le mot utilisé ici. Et presque tous les étudiants et les commentateurs que j'ai lus suggèrent que le Saint-Esprit a utilisé ce mot presque inhabituel, mais spécifique, pour nous parler d'une parole à propos à la situation. C'est-à-dire, pas juste toute la Bible ici, mais vraiment une parole de Dieu, une parole spécifique. Ça devient notre arme, ça devient notre épée. Prenez l'épée, prenez la parole et savoir l'utiliser au bon moment et dans la bonne situation. Et ne pas la tordre. Hein. Alors, où est l'exemple suprême de quelqu'un qui a su utiliser la bonne parole au bon moment? Quand je dis suprême, hein, vous pensez déjà. Donc, on va juste vite regarder Romains 4. Et, pas Romains 4, pardon, Matthieu 4. Désolé. Matthieu chapitre 4. Et il y a trois tentations, vous savez, il y a trois tentations. La première concerne du... quoi ? Il le pousse à changer le... voilà, les pierres en pain, hein, ça concerne le pain. Deuxième, verset 5, il le transporte jusque sur le haut du temple et lui dit de sauter. Hein? Et après il cite une promesse, okay? Et puis le troisième, il lui montre plus que Jérusalem, il lui montre tous les royaumes de la terre, et il lui dit que tu seras seigneur sur toute cette terre si tu m'adores. Okay, pensez à ce que Satan fait. Avec la première tentation, Satan fait appel à une puissance qui est la sienne. Jésus a la capacité. Plus tard, Jésus va changer des choses en pain, n'est-ce pas? Il va multiplier le pain. Jésus a cette capacité. Donc, il fait appel à une puissance qui est la sienne. Jésus pouvait se dire, mais je suis capable de faire cela. Ce n'est pas de la sorcellerie, j'ai cette capacité. Dans la deuxième, Satan fait appel à une promesse qui est certaine. Hein, il cite les psaumes, que le Seigneur le gardera et le protégera. Et dans la troisième tentation, Satan fait appel à une fin qui est souveraine. Ça a été déjà annoncé, en fait, que tous les royaumes viendront à Christ et qu'il serait Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Donc, on voit vraiment comment il est malin. Il fait appel à déjà une puissance qu'il a déjà, à une promesse. Il peut dire, mais Dieu m'a promis qu'il va me protéger. Et une fin déjà qui est souveraine, il sait que Dieu fera ces choses. Mais chaque fois, c'est le moyen d'y arriver qui est le problème. Et souvent aussi avec nous, on dit, mais la fin, c'est une bonne chose. J'essaye de faire une bonne chose. Je vais défendre la vérité, ou je sais que Dieu veut que je sois heureux. Ou, tu vois, on a cette fin, ou on a cette promesse que Dieu nous a promis, ou on a cette, on dit, mais écoute, j'ai la capacité de le faire, voilà, je fais rien de, c'est pas un péché, mais quand même le moyen d'y parvenir n'est pas selon la volonté de Dieu. Alors, comment est-ce que Jésus fait face à ces tentations? Vous savez la réponse, c'est quoi? Chaque fois, il a une parole divine. Il va dire, il est écrit, et puis il va dire, attendez, je sors mon portable, j'ai un verset, il faut que je cherche. Non. Et je vous assure, il n'avait même pas non plus de rouleau. Où étaient ses paroles? Il avait certainement appris ce que le psalmiste a dit, c'est que je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. En fait, Jésus n'avait que deux choses. Et c'est les mêmes choses que nous avons. Et on le voit dans le texte. Le premier verset dit que Jésus fut amené par l'Esprit. Il était sous la direction de l'Esprit. Il était obéissant à l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit. Il avait l'Esprit, et puis, chaque fois qu'il dit, il est écrit, il avait sa parole. Et c'est intéressant de noter que, lors de son baptême, le ciel s'ouvre, la colombe descend, il y a une voix céleste, c'est spectaculaire. Mais quand il est face à l'ennemi, il n'y a rien qui descend du ciel. C'est le silence total. Il n'a que l'esprit en lui. Et nous savons qu'il est. La Bible dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Nous, on a tous l'esprit avec une certaine mesure. Jésus avait l'esprit sans mesure. Et il avait la parole dans son cœur. Et c'est comme ça qu'il a pu chasser même le tentateur et résister aussi à ces tentations. Donc, nous sommes appelés à faire pareil que Jésus, à nous servir de cette épée, nous rappeler que c'est une personne, c'est le Saint-Esprit, c'est pas juste. Nous, on n'adore pas le papier, hein. On ne lit pas juste pour avoir lu. Non, nous on lit pour comprendre. Parce qu'on veut savoir ce que le Saint-Esprit nous dit. Mais on ne cherche pas un mot qui tombe du ciel. Non, nous on cherche à connaître ce que Dieu voulait dire quand il a parlé là pour la première fois. Et puis, on cherche à les mémoriser. Et quand la tentation arrive, vous verrez, hein, Jésus cite différents passages. Mais chaque fois, le passage est approprié. Et surtout, mes amis, si vous avez une tentation qui revient, qui revient, qui revient, vous devez... C'est terrible, en fait, de ne pas le faire. Cherchez dans la parole de Dieu. Trouvez des passages, trouvez des phrases, trouvez des rémas spécifiques pour cette tentation. Et les mémoriser. Et puis, avec l'aide de l'Esprit, les utiliser au moment de la tentation. Ça, c'est l'épée de l'Esprit. Prenez l'Esprit comme épée. Et prenez sa parole. On ne peut jamais séparer l'un de l'autre.